Aujourd'hui, nous allons traiter de l'Agba Omer, donc de la Torah de la Kabbale, que Rabbi Shimon Bar Yochai a mis en relief. Yom l'Agba Omer, hu hatzir ha-metzaref machshava le-ma'aseh. L'Agba Omer est un jour dans toute la période du Omer qui a pour fonction, qui a pour qualité intérieure de relier la pensée à l'action. Autrement dit, toute la force de la Kabbalah, c'est la possibilité de traduire le monde spirituel en réalité matérielle. Moralité, la Torah de la Kabbalah n'est pas une Torah qui plane dans les airs et qui traite de sujets ésotériques, mystiques. Tous ces termes n'existent pas dans le judaïsme. Il n'y a pas de mystère dans le judaïsme, il y a des secrets. Les secrets se trouvent à chaque instant, mais dans un monde caché de la vision extérieure des choses. Ceux qui sont capables de pénétrer, d'enlever l'écorce qui cache le monde extérieur, eh bien, eux touchent immédiatement à cette âme, à cette neshama, dans tous les domaines de la vie. Il y a les secrets du temps, il y a les secrets de l'espace et il y a les secrets de l'homme. Le secret de l'humanité, c'est Israël. Le secret d'Israël, c'est la nation. Et à l'intérieur de cette nation, il a une âme. Le secret de la terre, c'est la terre d'Israël. Le secret de la terre d'Israël, c'est Yerushalayim. Le secret de Yerushalayim, c'est le Saint des Saints. Le secret du temps, c'est le Shabbat. Et à l'intérieur du Shabbat, il y a des secrets, des secrets. Ça veut dire que la Torah des secrets n'est pas une Torah de quelque chose qui n'est pas, mais tout simplement la capacité à dévoiler les choses intérieures, les choses centrales, dans le monde de l'extériorité. Dévoiler la Neshama dans le corps. C'est pourquoi le jour correspondant à cette Torah des secrets, eh bien, c'est le jour de l'Agba Omer, le jour où les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir, parce que justement, cette puissance de cette journée bien spéciale a pour but de rendre la vie et d'arrêter la mort. En effet, la Torah de la Kabbalah s'appelle Etzraïm, l'arbre de la vie. Et donc ceux qui touchent à cette Torah touchent la vie. Malheureusement, on a fait peur à toutes les générations de ne pas s'approcher de cette Torah. Et je vous ai apporté aujourd'hui des références du Rav Kook lui-même pour montrer l'importance de cette étude et arrêter de raconter des bêtises pour faire peur aux gens, pour jouer le rôle du mauvais penchant, pour que l'homme ne pénètre pas dans cette Torah, dans ce degré supérieur de notre Torah. Beyom ze mitgala komat haor ha-Elohi derech ha-raglaim. Ce jour-là de l'Agba Omer, la lumière divine se dévoile à travers les jambes. Hamma'amidot et kol ha-koma ha-eliona al ha-karka shel ha-metziut. Parce que les jambes, c'est ce qui fait mettre, ce qui fait placer l'homme sur terre. Autrement dit, un homme qui n'a pas de jambes, c'est un homme qui n'existe pas. Ici, les jambes ne veulent pas dire des jambes physiques. Les jambes veulent dire une force terrestre, une force de lien avec l'extériorité, avec la terre, une assise, une solidité. Donc quiconque n'a pas cette solidité, ne peut pas en réalité révéler ou dévoiler quoi que ce soit, parce que il peut avoir une grosse tête, lorsqu'il aura de petites jambes, eh bien, sa Torah ne peut pas subsister ni se révéler, car elle n'existe pas réellement. Kol shechokhmato meruba mima'asav, en chokhmato mitkayemet. Quiconque possède une sagesse plus grande que sa force de dévoilement, c'est-à-dire que ses actions, eh bien, sa sagesse ne peut pas résister, elle ne peut pas vivre longtemps. Par contre, kol she ma'asav merubim michokhmato, ceux qui ont les ustensiles nécessaires pour dévoiler cette chokhma, eh bien, chokhmato mitkayem, et cette chokhma peut exister, peut se dévoiler et peut aboutir. Il y a une règle, donc, dans cette Torah de la Kabbale, de faire très attention aux ustensiles afin de révéler la lumière. Si les ustensiles sont trop petits, trop faibles, il y a ce qu'on appelle la brisure des vases, c'est-à-dire la lumière trop forte par rapport à l'ustensile, l'ustensile explose. Une sagesse trop importante pour un homme qui n'a pas fabriqué des ustensiles adéquats, eh bien, c'est une sagesse qui ne peut pas se dévoiler dans ce monde. Donc l'acquisition de la partie inférieure de l'homme est nécessaire, donc de la partie révélatrice, qu'on appelle dans un langage courant les jambes. Les jambes, ce ne sont pas seulement des membres du corps, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, les assises de tout le corps humain avec toute sa neshama. Donc il faut développer sa partie jambe, et lorsque cette partie jambe est faible, ou qu'elle a un problème, elle ne peut pas maintenir tout l'édifice supérieur. Je vous rappelle que même Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il se dévoile dans notre monde, il utilise des jambes. Bien entendu, pas des jambes physiques, mais des jambes spirituelles. Ces jambes-là, on les appelle Pesach, Shavuot et Sukkot. C'est pour ça qu'on les appelle Shlosha Regalim. Regalim, ce sont des pieds, des jambes. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il descend sur terre pour se dévoiler, il utilise trois canaux qui sont appelés communément les jambes de l'année. Et donc, Akadosh Baruch Hu se dévoile dans notre monde à travers ses jambes. Et donc, il y a une jambe qui est relative à la partie de la miséricorde. Il y a une jambe relative à la partie de la mesure. Et il y a une jambe centrale qui est relative à l'équilibre. Et donc Akadosh Baruch Hu descend dans notre monde à travers ces trois fêtes qui s'appellent donc Shlosha Regalim. Ken.
En fait, c'est l'image qu'on donne aux ustensiles.
Tout à fait. Les jambes, c'est l'image de l'ustensile ou des ustensiles qui nous permettent de dévoiler donc notre Torah supérieure à l'extérieur. En effet, le Zohar nous enseigne que les jambes ne font pas partie du corps, elles sont à l'extérieur du corps. Tout en étant faisant partie du corps, elle s'appelle les bar migoufa, extérieur au corps. Cela veut dire que c'est toute l'intériorité qui se dévoile à travers l'extériorité. Bar veut dire dehors, et donc veut dire aussi fils de. Rabbi Shimon, bar, fils de Yochai. Ça veut dire que l'enfant est appelé, dans le langage de la Kabbalah, la jambe du père. Les jambes du père, ce sont ses enfants. C'est-à-dire, j'ai des enfants, mes enfants représentent en fait ce que je laisse sur terre. Donc toute ma Torah, toute mon idéologie, tout mon savoir doit passer en fait à mes jambes, c'est-à-dire à mes enfants. Quand je veux frapper quelqu'un, je le frappe au niveau des jambes, c'est-à-dire je le frappe au niveau de son avenir. Et c'est pour ça que l'ange de Esav a frappé Yaakov au niveau de la cuisse, c'est-à-dire au niveau même de cette partie délicate qui s'appelle donc les jambes, pour empêcher en quelque sorte Yaakov de dévoiler le judaïsme à ses enfants, pour ne pas qu'il y ait chas v'shalom un avenir au peuple juif. Baruch Hashem, Yaakov s'est bien battu et il a gagné ce combat, et bien qu'il boitait au départ, Ken, il s'est arrêté de boiter, tout allait bien, et non seulement ça, il a gagné en plus, grâce à ce combat, un niveau supérieur de son être. Il est passé de Yaakov à Israël. Ceux qui ont des problèmes donc aux jambes, ce sont ceux qui ont un problème de dévoilement de leur Torah céleste au niveau de la terre. C'est clair? Exemple type, les Meraglim. Les explorateurs, on les appelle Meraglim, c'est-à-dire un problème au niveau des jambes. Leur Torah est une Torah de désert, une Torah du mont Sinaï, une Torah céleste, qui a du mal à s'habiller dans la réalité de la vie. Et donc on les appelle les explorateurs, les Meraglim, justement parce que c'est lié à cette faute-là, une grosse tête et de petites jambes. Donc quelqu'un qui a une grosse tête, de petites jambes, je traduis dans un langage simple, de belles idées, mais il n'arrive jamais à les cristalliser, à les réaliser, eh bien ça ne sert strictement à rien. Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de l'Agba Omer, nous fêtons la partie en réalité de la jambe gauche dans le langage des sphères. Le jour de l'Agba Omer, c'est Hod Shebehod. Vous voyez dans vos Sidurim de Tfila, chaque jour du Omer, il y a une correspondance à une sphère spirituelle. Eh bien, la sphère correspondante à l'Agba Omer, c'est Hod Shebehod. Si on devait lui donner un membre du corps humain, c'est la hanche gauche. La hanche gauche qui est la plus proche de l'apparition, c'est-à-dire de la partie terrestre, de la partie du dévoilement. Je résume, Rabbi Shimon Bar Yochai, en fait, représente la jambe de la Torah, c'est-à-dire celle qui va maintenir la Torah jusqu'à la fin des temps à toutes les générations à venir. Et ce n'est pas par hasard que le texte utilisé, qui est marqué d'ailleurs dans le Tzioun de Rabbi Shimon Bar Yochai à Meron, c'est « Ki lo tishakach mi pizaro » Si vous voulez que la Torah ne soit jamais oubliée de la génération suivante, des générations suivantes, eh bien, gardez, observez, étudiez la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, autrement dit le Zohar. Et pourquoi précisément cette partie-là, ce texte-là, eh bien, si vous prenez la fin de chaque mot, lo, c'est Aleph, tishakach, chet, mipi, yud, zaro, vav. J'ai donc écrit Yochai. C'est-à-dire que ce qui garantit l'avenir de la Torah au niveau des enfants, ça va être en réalité Rabbi Shimon Bar Yochai et sa Torah. Maintenant, vous comprenez pourquoi les enfants, intuitivement, un mois avant l'Agba Omer, sont en train de ramasser des planches et des bouts de bois pour allumer un feu. On n'a jamais vu une chose pareille dans aucune fête du judaïsme, vous êtes d'accord? Il y a quelque chose de spécial qui est lié aux enfants. Les enfants ne savent même pas ce que je suis en train de vous dire maintenant. Mais naturellement, ils se réveillent à cela parce que justement, il y a quelque chose du potentiel de Rabbi Shimon Bar Yochai qui transparaît et qui traverse toutes les générations et qui touche précisément l'avenir, c'est-à-dire nos enfants, c'est-à-dire nos jambes, c'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai est un correcteur de la faute des explorateurs. Rabbi Shimon Bar Yochai est la correction de la peur de traduire une pensée en action. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai, cet être extraordinaire, est le modèle même d'Akadosh Baruch Hu pour savoir à quoi doit ressembler un homme. Comme on le dit dans la chanson de Rabbi Shimon lui-même, Ken, Naase Adam, lorsque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, Nehemar, ça a été dit, Ba'avurecha, pour toi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Je résume, le modèle qu'Akadosh Baruch Hu voulait, c'est un homme comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai est capable de traduire une pensée en action, de traduire une idée en réalité, de traduire une idéologie divine en réalité manifestée, physique, dans la terre, dans l'expression du temps et de l'espace. Quel?
Nous, quand on arrive à traduire une idée ou un projet en réalité,
quel?
C'est-à-dire qu'avec nous, on
Tout à fait. Lorsque tu arrives à traduire une idée et que tu la réalises, bien, tu as traversé une difficulté qui normalement devait te bloquer au niveau des jambes. Okay? Comment se dit l'expression quand quelqu'un n'arrive pas à réaliser une idée en acte? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ses jambes? C'est toujours les jambes qu'on réveille. Okay? Où on lui a coupé les jambes, on lui a coupé l'herbe sous les pieds, on lui met des bâtons dans les roues, c'est-à-dire toute la partie inférieure. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à réaliser, il a les jambes froides, okay? Il s'est refroidi au niveau de sa démarche, donc il ne marche plus. Et d'ailleurs, quand quelque chose ne marche pas, ça veut bien dire ça. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, ça a arrêté de marcher, ça arrête de fonctionner parce qu'il n'y a pas de pied, il n'y a pas de jambe. Alors, oubliez le côté jambe physique, c'est toute l'expression du dévoilement. Donc, Régel, c'est ce qui me fait amener au dévoilement. Dans le mot Régel, il y a le mot Gel. Gel qui veut dire Gal, une vague ou une onde ou un dévoilement. Lag, bah Omer, c'est les mêmes lettres que Gal. C'est le 33e jour du Omer. Ken. D'accord? Donc, est-ce que l'idée première que je viens d'énoncer ici est claire? Belag ba Omer a pnimiut mofia klapechutz. Donc, le jour de Lag ba Omer, c'est le jour précis dans l'année où l'intériorité se dévoile à l'extériorité. Où la Torah de l'intériorité sort dehors. Où la Neshama du peuple d'Israël se dévoile. Où le ciel rencontre la terre. Pourquoi? Parce que enfin nous avons trouvé les jambes de l'histoire. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai représente la jambe de l'histoire. Donc le côté manifesté de toute notre intériorité divine. Les bar migoufa, donc on arrive à sortir, à cristalliser en dehors de notre esprit et de notre corps, ou mamchisha bazé. Vous pouvez leur dire de se calmer un petit peu? C'est quoi ce sauveur? Ou mamchisha bazé. Et donc elle exprime par cela et Shlemut Habinyan, l'entité de l'édifice. Encore une fois, l'édifice ne peut pas être entier s'il n'y a pas et une tête, et un cœur, et des jambes. Il y a une expression ilchatit à ce que je viens de dire. On n'a pas le droit de parler entre les tfilines de la main et les tfilines de la tête. Pourquoi? Parce que vous faites une séparation entre l'action et la pensée. Et quiconque sépare la pensée de l'action est condamné en réalité. Se met lui-même dans un état de danger. C'est-à-dire que ses pensées n'arrivent pas à aboutir au niveau de l'acte. Moralité, les sages nous disent que lorsque les guerriers du roi David mouraient en guerre, c'est parce qu'ils parlaient entre les tfilines de la tête et les tfilines de la main. Et donc il est interdit de parler entre ces deux tfilines et l'idée intérieure de cette interdiction, vous venez de la comprendre. Donc ne pas faire de coupure entre l'idée et la réalisation de cette idée. Al-Khashivut Limut Torat Asod. Et donc, concernant l'importance de cette étude, Katav Rav Kook Zatzal, le Rav Kook nous écrit une longue lettre où il répond au Ritbaz dans Igrot Re'aya, Krach Bet, c'est-à-dire volume 2, à la page Taf Resh Bet, dans le Siman, dans le signe, et 400 et plus 200, donc 602. Regardez ce que dit le Rav concernant donc l'étude de la Kabbale. Ma'u alimud ha'yesodi shel chokhmat ha'emet. Quelle est la centralité de l'étude de la Kabbale? C'est-à-dire, le Rav Kook ne se suffit pas de dire qu'il faut étudier la Kabbale, il va même au niveau de la Kabbale de la Kabbale. C'est-à-dire qu'il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la Kabbale, c'est la centralité, le fondement même de la Kabbale. Qu'est-ce que c'est que le fondement même de la Kabbale, dit le Rav? Imlo, ha-perush ha-mekubal shel emunat Israël bechol merom kdushata vetaharata. Dit le Rav Kook, la Kabbalah, le fondement même de la Kabbalah, c'est l'étude de la Emunah. étudier la Emouna. Quelle Emouna? La Emouna d'Israël. Bechol merom kdushata v'taharata, au plus haut niveau de sa sainteté et de sa pureté. Autrement dit, le Rav est en train de nous traduire le terme de secret de la Torah, Kabbalah, en terme premier de Emouna. Traduction du mot Emouna, certitude, et pas une foi. Quand j'étudie la Emouna, j'étudie la Torah de la vérité. Amen en hébreu veut dire emet, vérité. Donc je certifie le divin par l'étude de la Emouna. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand je suis ma'amin, quand j'ai la Emouna, en qui, en réalité, j'ai la plus grande Emouna dans ma vie? Non, en moi-même. D'abord, si je n'ai pas Emouna en moi-même, je ne peux pas avoir Emouna en Hakadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la Emouna en soi-même? Certifier la vérité de ma vie. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin qu'on me prouve que je vis. On est d'accord, sinon je suis très malade. Je vis, un point, c'est tout. Mais ça doit être la même chose au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne dois plus considérer qu'Akadosh Baruch Hu c'est quelque chose de loin, tu dois le vivre. Tant que tu ne vis pas l'éternel, mais tu n'as pas encore accompli la mitzvah de la Emouna, donc tu ne comprends rien encore au niveau de l'intériorité des choses. Donc non, il ne s'agit pas donc d'étudier les choses pour un amassis d'informations. Non, je dois absorber en réalité la chose et la faire circuler à travers moi-même dans ma vie. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu doit me traverser lorsque j'étudie sa Torah et son essence, au maximum de mes possibilités. Chez Kol Masha Aziva Olechet Umitraba, il dit le Rav Kook, si on laisse cette étude, Vetorah Delaela Muferet, et qu'on néglige la Torah supérieure, autrement dit la Kabbalah, il y a des ronces et des épines qui poussent d'eux-mêmes dans le champ de notre vie. Saviv, les Nekudata Ora. Et où est-ce que poussent ces ronces et ces épines? Tout autour de ce point lumineux, Shel Emunat Elohe Emet, de la Emuna du Dieu de vérité d'Israël. Autrement dit, quand tu n'étudies pas cette étude de la Kabbalah, quand tu sors contre cette étude de la Kabbalah, tu crées en fait une protection négative qui t'empêchera d'atteindre la lumière au centre même de ta vie parce qu'il y a des ronces et des épines qui vont t'empêcher de rentrer. Ces ronces et ces épines viendront bien entendu sous forme de peur. Ne touche pas à cette étude, fais attention, tu vas devenir fou. Hein, tout ce qu'on entend depuis 2000 ans, malheureusement. Et donc, moralité, tu ne rentreras jamais dans cette Torah, tu ne goûteras jamais à l'arbre de la vie. Atzmachim Araim, dit le Rav Kook, le mauvaise plante, ces ronces, ces mauvaises plantes, et Einam Tzrichim Avoda, ne demande aucun travail de la part du jardinier. On est d'accord? Les mauvaises plantes, les ronces et toutes les mauvaises herbes, elles poussent d'elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin d'avoir d'arrosage ni de labourer la terre. Ça pousse tout seul. D'accord? Dit le Rav Kook, toutes ces mauvaises herbes poussent toutes seules. Mitoch atzlut. Justement parce que tu es un fainéant. Parce que tu n'arrives pas à comprendre l'importance de cette étude. Donc tu te retires de cette étude dans ta vie, eh bien vont pousser dans ta vie, même au niveau de ta Torah, beaucoup de mauvaises herbes, parce que tu es un grand fainéant. Donc, mitoch atzlut me'atzmam hem gdelim, qui vont pousser tout autour de toi sans que tu fasses quoi que ce soit. Ve'adorazé, et cette génération, hallakui kol kach be'machalat akfira, qui est tellement malade du rejet en fait du divin sur terre, c'est-à-dire il est malade de la Emouna. Cette génération est malade au niveau de la Emouna, donc de certifier le divin dans ses actions. On est tellement malade de cela. Est-ce qu'on peut rester de côté? Est-ce que nous avons raison de dire chez les Tchouato que pour guérir, pour le sauver, pour le délivrer, sous cette génération-là, on ne doit pas développer, multiplier la Torah de cette Emouna? Bien sûr que si. Et si on ne le fait pas, on continue de laisser la maladie de la génération se développer. Chas v'shalom. Ve'kolzman, donc tout le temps, chez l'orthodoxie, que l'orthodoxie, c'est-à-dire que la partie orthodoxe du judaïsme, Omeret, dit, be'akshanut, avec une certaine virulence, ils sont têtus, dafka lo, nous on dit que non, rak gmara, veposkim levadam, on ne doit étudier que la gmara et la halakha seulement, rien d'autre. Lo agada, n'étudiez pas les histoires entre les Gmarot. Le Moussar, n'étudiez pas le Moussar. Le Kabbalah, n'étudiez pas la Kabbalah. Le Merkar, ne scrutez pas la Torah pour rechercher sa profondeur. Le Da'at, ne cherchez pas à avoir une connexion, une connaissance profonde. Velo Chassidut, et n'étudiez pas la Chassidut. Ceux qui vous disent tout ce qu'on vient de dire ici, ce sont ceux qui maintiennent une idée bloquée, obtuse, dans un certain degré de Torah, c'est-à-dire Gemara et Halakha, uniquement. Remedaldelet et Atzma, dit le Rav Kook, toute cette chita-là, cette manière de faire, ne fait que affaiblir cette même manière de vivre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune force là-dedans. Et donc tout ce qu'elle se prend comme moyen pour se protéger, mais elle néglige de prendre l'élixir de vie, le vrai, c'est-à-dire la Kabbalah. Elle peut se protéger avec tous les instruments qu'elle veut dans sa vie, sans prendre en compte la Kabbalah, c'est-à-dire l'élixir de vie, ce qui va lui permettre de vivre. Eh bien, ora Torah bepnimiuta, donc la Torah au niveau de son intériorité, hem la lo le'ezer velo le'oil, ça ne leur servira à rien dans leur vie. C'est-à-dire qu'une Torah sans Kabbalah est une Torah sans vie. Et donc ça ne sert à rien de se protéger de la Kabbalah, c'est comme si tu te protégeais de ta propre vie. Ça te paraît normal? Non, ta vie, tu la cherches. Donc si tu t'éloignes de la Kabbalah, en réalité tu t'éloignes de la vie. Ken.
Mais il y a des limites à ça quand même, parce que c'est moins dans les yeshivas.
Pour l'instant, on n'est pas en train de parler des limites, on est en train de parler de ce qu'on doit donner. Je sais que la peur engendre tout de suite la réaction que tu viens de crier, parce que tu as été malheureusement formaté à avoir peur de cette étude. Nous sommes au courant. Ken. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous les grands rabbanim d'Israël sont des kabbalistes. C'est pas parce que tu ne vois pas, parce qu'ils n'enseignent pas ça au niveau public, qu'ils ne l'est pas. Ken, les grands rabbanim d'Israël sont des kabbalistes dans toute leur splendeur.
Ken.
Encore une fois, il y a au niveau du dévoilement, est-ce qu'il a connu le Zohar ou pas? Ce sont des questions qui se posent. Mais il y a une connaissance de l'existence de la Kabbalah, Ken, et Chas v'Shalom de sortir contre cette partie de l'étude de la Torah. Ce n'est pas encore une partie dans la Torah, c'est une partie intégrante de la Torah elle-même. On n'a pas le droit de sortir cette étude comme si c'était quelque chose de dangereux, un truc à part, on n'a pas le droit de s'approcher. Ken, le Rav est en train de nous dire tout ça, et j'ai apporté volontairement le Rav Kook, parce que pour citer le contre, on cite le Rav Kook. Alors, je me demande où les gens vont chercher leurs références. Voici les références. Ken.
Il faut avoir un certain niveau, justement, vous dites...
J'ai compris ta peur, c'est comme la sienne. Ken. Pour l'instant, je suis en train de dire ce que le Rav est en train de nous dire. Après, on verra exactement ce qu'il faut ou il ne faut pas, quel niveau ou quel niveau il ne faut pas. Ken.
Non, tout ce qui est commandé à la fin, une personne, elle peut s'accomplir, mais c'est pas le...
Non. Personne ne peut s'accomplir au niveau de la Gemara et de la Halakha simplement. Tu ne peux pas t'accomplir parce que tu ne connais pas le fondement des choses. C'est-à-dire qu'un grand Possek Halakha est automatiquement un grand kabbaliste. C'est-à-dire que Rabbi Yosef Karo, c'était un des plus grands kabbalistes de l'histoire. C'est pour ça qu'il est capable d'écrire un livre de Halakha. Et c'est pour ça qu'il a écrit un livre qu'un ange venait lui dicter. Okay? S'appelle Magid Mesharim. Un ange venait et il est monté en Eretz Israël parce qu'une voix céleste de la Shrina a parlé à travers sa gorge. Il lui sortait un autre son et ses amis, quand ils l'ont vu le soir de Shavuot sortir ce son okay, de la Shrina, tout le monde est tombé par terre et la Shrina a dit il faut monter en Eretz Israël. Arrêtez de vous occuper de la Torah en Chutz La'aretz. Le temps est venu pour monter en Eretz Israël. Donc la Kabbalah, c'est la racine même de la Halakha. C'est la base même du divin qui, lorsqu'il descend dans ce monde, il se dévoile au niveau de la Halakha. Donc on ne peut pas, Chas V'Shalom, séparer les choses. C'est une continuité des choses. Et ceux qui n'ont pas atteint cette partie-là ne peuvent même pas avoir le titre de Rav. Rav, c'est quelqu'un qui a dans son panier toutes les parties de la Torah. Le Pshat, le Remez, le Drush et le Sod. Donc il faut qu'il s'efforce à étudier dans ces quatre parties continuellement. Ken ? Non. Tu peux étudier la Kabbalah sans être Mekoubal. Être Mekoubal, c'est être accepté. Ça veut dire que toi, tu fais l'effort de, mais après, on décide d'en haut si on t'accepte ou pas. Ça veut dire que dans la Kabbalah, ce n'est pas les élèves qui cherchent un maître, c'est le maître qui va dire à l'élève quand il sent que l'élève est déjà prêt. Donc le maître voit des signes distinctifs dans son élève en lui disant « Maintenant, tu es prêt à étudier cette partie de la Torah. » Ne me demandez pas comment. Okay? Je ne sais pas.
C'est quoi la Kabbalah?
La Kabbalah, c'est la capacité à recevoir. Les Kabel, Kabbalah. Est-ce que tu sais recevoir le divin? C'est tout.
Pourquoi ils lisent le Zohar?
C'est parce que le Zohar, c'est là où on enseigne exactement la capacité à recevoir, à être le véritable réceptacle à la lumière divine. D'accord? C'est pour ça que ce livre s'appelle La Splendeur, le livre de la grande lumière, comment la recevoir? Tu reposes la même question que tes amis?
Non, pas ça. Certaines choses pour avoir...
Ok, il faut une certaine préparation et on va voir exactement comment ça se passe. Vehi mitmala al yedeze bekesef en ail. Donc, si l'orthodoxie, comme dit le Rav ici, vous avez compris qu'il sort contre une certaine manière d'étudier, clairement. Et il dit que ça finit par faire en sorte de rendre ces gens-là ketsef. Qu'est-ce que c'est ketsef? Nerveux. Ce sont des gens qui finissent par devenir de grands nerveux, okay, au niveau de leur Torah. En aïl, mais qui n'ont aucune force. Aïl en hébreu, c'est la force, la puissance. C'est-à-dire des nerveux sans force.
S'ils le vivent, ils vont pas être nerveux. Si ces personnes qui tuent la demande avec la lacha, ils vivent la chose.
Encore une fois, tu peux croire que tu vis et tu ne vis pas. Même un juif non religieux, je suis sûr qu'il est en train de se balader maintenant sur la plage et tu vas le convaincre, il va te dire, mais toi tu ne vis pas, moi je vis. Il a raison ou il a tort? Il peut avoir raison. Alors pourquoi lui et pas l'autre? C'est pas parce que tu crois que tu vis que tu vis. Pour vivre, il faut vivre. C'est pas dans ton idée. C'est-à-dire que tu dois certifier ta vie. Et ça, ça se voit dans toutes les parties de ta vie. Est-ce que tu es un homme nerveux? Est-ce que tu as peur de tout? Est-ce que tu es devenu un... Ken? Fermé dans tous les domaines, je me sauve de ça, je me sauve de ça. Ou est-ce que tu vis ta vie? Ça aussi, ça fait partie de la vie. Encore une fois, on va rentrer tout doucement. Ou mitmal'a marchavot shel mistama ou medanim. Moralité, ces gens-là qui développent uniquement la Torah, donc de la Gemara, et des poskim seuls, deviennent en réalité remplis de mauvaises pensées ou médanimes et de difficultés de vivre avec les autres et de recevoir leur shita. C'est-à-dire, ça devient en réalité que des bagarres, que des guerres, pour ne pas devenir comme l'autre. Gam beina le ben atzma, et ces guerres se multiplient à l'intérieur même de cette shita. Vekocha holech vekachel, et sa force va en diminuant. Lo chalila al nekudat hatam. Maintenant le Rav Kook met une mise au point. Je ne suis pas en train de parler de l'entité. Je ne suis pas en train de parler du lien entre la sainteté supérieure et la Torah au niveau de la Emouna, au niveau du global. Je ne suis pas en train de dire que l'orthodoxie, c'est pas bien qu'elle soit complètement collée aux mitzvot. C'est pas contre ça que j'en ai, dit le Rav Kook. Dans leur façon de faire la mitzvah au niveau appliqué. Ou be'avata Torah, je ne mets pas en cause leur amour de la Torah. J'accepte. Haniglet. Dévoilé. Pas caché. Dévoilé. Amarti shehi mashpika et atzma behevleshav ou bemdimionot kozvim. Contre quoi je sors, moi, le Rav Kook? Contre des choses qui sont viles, qui sont vides, ou bedimionot kozvim, avec de l'imagination débordante, qui n'a aucun rapport, aucun lien avec la vérité, shachaim v'ametziut machrivim otam, qui finalement se font détruire par la vie. C'est-à-dire que la vie est beaucoup plus forte que toutes ces données-là. Je donne un exemple très précis, c'est-à-dire que je peux développer tout un système de pensée, d'études. Mais si finalement, cette étude n'arrive pas à arriver dans la vie est beaucoup plus forte que cette étude. Donc la vie va annuler toute cette étude et elle va continuer normalement. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire qu'une étude qui n'est pas liée à la vie, en fait, elle ne peut pas résister. La vie est beaucoup plus forte que cette étude. Donc une étude, seule l'étude qui est liée à la vie peut subsister. Parce que la vie est beaucoup plus forte. Donc la vie va tout rejeter ce qui est contraire à la vie, en fait. Elle fait un rejet. Donc ce qui est lié à la vie, c'est la seule Torah qui reste en réalité. Alors le Rav maintenant explique. Alors contre quoi je sors? Et là, à la tolada ha'aniya, je sors contre la pauvreté de cette étude. Shehi motzia midi nekudatazo, parce qu'elle sort du point lumineux central de la neshama de la Torah, c'est-à-dire de l'âme même de la Torah, parce qu'elle n'étudie pas cette étude. C'est comme si elle se sauvait du point culminant, du point central, de l'essence de la vie. Shehi omedet betocha bematzav shel shimtzu vekadrut. Moralité, tu restes froid, noir et petit, étriqué. Shalpize, isholelet et kol archavat ora. Elle-même, cette forme d'étude, s'empêche l'élargissement de toute la lumière divine mitzfunei tzfunot al giluy et giluyot, de tout ce qui est le plus caché, le plus céleste, le plus intérieur, tu l'empêches en réalité de l'amener au niveau de ta vie. Donc tu vas apprendre toute ta vie comment faire les mitzvot. Mais tu ne sauras jamais pourquoi. Et c'est ça l'étude de la Kabbale. Toute l'étude du pshat, c'est comment faire les choses. La Kabbalah t'offre quelque chose de supérieur. Je t'enseigne le comment. Tu dois continuer à l'étudier, bien entendu. C'est pas à la place de... Mais tu dois aussi arriver à un degré de pourquoi. Je veux comprendre le sens profond. Je veux avoir le goût de ce que je fais. Et pas seulement le comment faire. D'accord? Il y avait une question?
Oui. Okay. Pourquoi quand on commence à étudier, alors on fait commencer par Kumash, Kumara, tout ça? Alors.
C'est une bonne question. On va voir selon les générations comment ça se passe. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, les kabbalistes, le problème, je vais vous dire quel est le problème. C'est que quand vous avez mal aux pieds, vous allez voir un podologue. Et quand vous avez mal à la tête, vous allez voir un podologue? Peut-être pas. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens qui veulent se poser la question s'ils ont le droit d'étudier, comment étudier, ils vont voir des gens qui n'étudient pas. Donc, comment tu veux qu'une personne qui n'étudie pas cette étude te donne une réponse positive quant à cette étude. Comprenez? Vous allez voir les mauvais médecins. Va demander à un kabbaliste, est-ce que j'ai le droit d'étudier? Tu verras la réponse qu'il te donnera. Mais si tu vas voir un médecin qui est anti-Kabbalah, il ne va pas te dire d'étudier. Il va t'interdire même l'étude. Donc ça dépend à qui on s'adresse. Ken? Ils sont devenus fous.
Ken?
Et ils se baladent avec un zohar dans la main. Je peux te montrer tous les hôpitaux de fous qui n'ont jamais étudié la Kabbalah. Toi, tu me demandes un exemple. Moi, je te sors tous les hôpitaux, il n'y a jamais de Kabbalah là-dedans, et ils sont tous fous. Non, c'est pas à cause de ça. C'est pas à cause de ça. Ça, c'est Maasé Satan. Ça, c'est la force du Satan de faire peur à notre peuple pour ne pas qu'il rentre dans cette Torah. Or, la Torah de Eretz Israël, tout ce que vous étudiez ici, la Torah du Rav Kook, c'est la Torah de la Kabbalah. Que vous le sachiez, que ce soit clair, vous étudiez ici la Kabbalah, seulement elle est habillée avec la Torah de Eretz Israël, telle que vous l'étudiez avec vos rabbanim. Donc je ne pense pas que ça vous rende fou du tout. Ça remet en cause beaucoup de choses. Ok? Non. La Kabbalah, elle s'étudie et elle se vit. C'est-à-dire, c'est une étude qui est profonde. On n'est pas en train de l'étudier maintenant. Je suis en train de vous dire comment le Rav Kook, quelle est son approche. Si le Rav Kook ne voulait pas que cette chose soit dite, il ne l'aurait pas écrite. Le Rav Kook sait qu'elle va être publiée, et ses élèves l'ont publiée. Ça veut dire que nous étudions la Torah du Rav Kook. Donc la Torah du Rav Kook, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, la plupart des gens qui font tshuva, qui ne rentrent pas dans les hôpitaux de fous, ils reviennent par quelle Torah? Par Chabad ou par Breslev? Ou par Rav Kook, ça dépend. C'est-à-dire Chabad Kook. Chabad Breslev Kook. Donc Chabad Kook, ça veut dire qu'est-ce que c'est que la Torah de Breslev ou de Chabad? C'est quoi? C'est de la Kabbalah. Tu commences la Chassidut, Chabad, le premier terme du Tania, c'est Kemoshe Katou Bazor. Une citation du Zohar, et il commence déjà. Toute la Kabbalah, toute la Chassidut, c'est de la Kabbalah. Rabbi Nachman de Breslev, c'est quoi? C'est de la Kabbalah pure. L'Ikutei Moharan, c'est de la Kabbalah. La Torah du Rav Kook lui-même, c'est quoi? Le Rav Kook lui-même dit, tout ce que j'ai jamais écrit dans mes écrits, tout ce que j'ai jamais pensé, tout ce que j'ai jamais dit, ça vient tout de quoi? Du Zohar et des écrits du Harizal. Seulement, encore une fois, pour vous rassurer, je sais habiller cette étude dans le contexte de la génération dans laquelle je vis. Ça, oui. Parce que si je vous cite des termes de Kabbalah et je vous balance des termes de Arichanpin, de Zeiranpin, de Nukba Deza, de Akve Al-Sadehak, et de Radla, de Resha de la Itiada, ou de Mokhin de Gadlout, de Mokhin de Katnout, Ken? Ça veut dire, ça sert à rien. Il est en train de nous raconter du baratin. Vous savez même pas ce que j'ai dit, c'est vrai ou faux. J'aurais pu vous dire un tabouret avec trois jambes. Okay. Donc ça ne sert à rien. Je ne parle pas de cette Kabbalah. Je parle de la Kabbalah habillée dans la Torah de notre terre Eretz Israël. La Torah d'Eretz Israël, c'est Torah ta Kabbalah. Sachez-le. Si tu veux t'appeler chassid, tu es un homme d'Israël qui revient à sa terre. On n'a pas besoin de rentrer dans un tiroir. Okay. Donc, Meharat Eshkodesh, et donc tout ça doit venir donc du feu, de la sainteté supérieure, les tfilah, beruach male chasson kadosh, adeharat chokhma becheshbon barur mi mekora shel Torah, venishmat el chay asher bekirben. Donc notre Torah, la Torah saine, doit venir obligatoirement du feu intérieur, de la source de la Torah et de la Neshama du Dieu vivant qui est à l'intérieur de nous. Si ce n'est pas relié à cela, alors tu es en train de faire une Torah humaine, cérébrale, c'est pas la Torah de Dieu. Tu peux faire très attention de ne pas tomber dans un excès, de t'éloigner complètement, parce que tu es tellement au niveau cérébral dans ta Torah, ce que je comprends, je fais, que finalement, tu fais une Torah, qui est à ton niveau une Torah humaine, et tu oublies complètement sa source divine. C'est ça le danger. Comment tu peux faire référence à ta Neshama? Tu la comprends, ta Neshama? Tu ne sais même pas ce qu'elle fait. Et pourtant, tu la vis à chaque instant. C'est-à-dire, le fait que tu vives ta Neshama, c'est que tu vis ton secret. Donc, tu vis ta Kabbalah. Je vis ma Neshama constamment. Et j'essaie de comprendre ce que ma Neshama veut me donner comme enseignement pour essayer de vivre ma vie normalement. Et pourquoi là, ça ne te fait pas peur? C'est la même chose. C'est ton monde intérieur que tu essayes d'extérioriser. C'est tout. Nous sommes tous un monde intérieur, c'est-à-dire une âme, qui s'est habillée dans un corps. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous parler maintenant d'âme à âme, à travers des corps. Ça, ça ne te fait pas peur? Pourquoi? C'est l'habitude, c'est tout. Mais en réalité, quand je te parle de la Torah, je te parle de la même manière. Je peux parler au niveau d'un vêtement, et toi tu comprends l'intérieur du vêtement. C'est tout. C'est-à-dire que je te parle habillé, je te donne une image, une parabole, et toi tu comprends l'intérieur de cette parabole. C'est tout. Ce n'est pas dangereux. Il n'y a rien de danger là-dedans. On ne t'apprend pas à voler. On ne t'apprend pas à maîtriser le temps, en tout cas pas dans les premiers cours. Okay? Si tu approfondis qu'Akadosh Baruch Hu accepte de te donner ce pouvoir, c'est autre chose. Okay? Je ne parle pas de ça. Le Ben Yishraï Alav HaShalom, dans son premier livre Da'at Utvuna, dit que ceux qui n'étudient pas la Kabbalah dans leur vie, au niveau de ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils ne s'efforcent pas de le faire, même au premier niveau, n'ont même pas le droit au jardin d'Éden supérieur. Quand ils arrivent là-bas, on les jette. Et il cite un verset de Shir HaShirim, « Imlo tede'ilach hayafa banashim » Qui c'est Hayafa banashim, la plus belle des femmes? C'est la Neshama. Donc Akadosh Baruch Hu parle à la belle des femmes, à la Neshama, en lui disant, « Si tu ne sais pas, imlo tede'ilach hayafa banashim » C'est ilach. Sors d'ici, tu n'as pas le droit, tu n'as pas accès au jardin d'Éden. Okay? Ben Yishraï.
Ah, mais
tout ça, c'était des kabbalistes. Tout ça, c'était des kabbalistes.
Mais pourtant, c'était des kabbalistes. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas encore la kabbalah?
Comment ils n'avaient pas la kabbalah? Je crois que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a inventé une étude.
Non, je vous dirais écrit, mais par contre, elle a été.
Elle était donnée, elle passait de maître aux élèves. Tous les Amoraïm, tous les Tanaïm, c'était des kabbalistes en puissance. David Ameler, c'est tout de la kabbalah. Tout le Tehilim, c'est de la kabbalah.
C'est pas des dvarim shutim,
c'est comme si je te parlais avec un vêtement, encore une fois. Quand je te dis donne-moi un verre d'eau, qu'est-ce que tu me donnes?
L'eau.
Pourquoi tu me donnes pas le verre? Je t'ai demandé un verre. Je t'ai dit donne-moi un verre d'eau. Je t'ai pas demandé de l'eau. Tu as compris?
Ouais.
Et toi tu as compris que je veux de l'eau dans le verre.
Je suis cabale au niveau de l'eau.
Tu as compris? Ça veut dire qu'en réalité, tu as compris le sens profond de ma demande. C'est la même chose. Quand je te demande au moins un stylo, tu ne me donnes pas un stylo qui ne marche pas, le plastique. Tu me donnes quelque chose qui a de l'encre, c'est-à-dire qu'il y a une neshama qui peut aboutir.
C'est sa fonction.
Parce que c'est sa fonction. Mais c'est la même chose. Quand tu me regardes, ce sont tes yeux qui me voient ou ta neshama?
Moi maintenant, je dirais mes yeux, mais je sais que vous mettez...
Qu'est-ce que veut dire que tu dirais que c'est tes yeux? Est-ce que tu as déjà posé des yeux sur la table, ils voient quelque chose?
Ouais, mais justement, alors pourquoi, si je dis mes yeux, c'est forcément dans une génération qu'on a du mal à comprendre tout ça.
Au contraire, toute la technologie moderne, Internet, tous les degrés qui sont en réalité sans aucun fil, c'est beaucoup plus facile de comprendre aujourd'hui. Je peux parler à quelqu'un à 4000 km de distance en faisant 3 numéros. Mais où tu vis? Au contraire, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Si je sors un téléphone à mon arrière-grand-mère, elle me prend pour un sorcier. Mais aujourd'hui, on le voit, tu peux parler directement à quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de la planète.
D'accord, oui, non, mais là, je comprends la Kabbalah au niveau de la Torah. Zohar Kadosh, c'est quelque chose dans les Sfarim.
D'où tu sais? Tu as étudié?
Non, j'ai pas étudié.
Alors pourquoi tu... Ah, non, mais c'est pas comme ça. Non, pas du tout. Ken?
Si le Rav Kook, il dit qu'il parle de gens qui n'ont pas étudié la Kabbalah, c'est-à-dire des grands Rav, je pense qu'il dit des grands Rav.
Tout à fait. Tout à fait. Nakhon. D'accord. Et c'est pour ça qu'il sort contre. C'est pour ça qu'il dit qu'en réalité, ce n'est pas la Torah des Rétisraël. Tout à fait. Okay. Je ne rentre pas maintenant dans tous les Inyanim. Qui est qui? Le Rav dit qu'il y a une manière de faire qui sort contre ça. Et le Rav donc écrit une lettre pour remettre les pendules à l'heure. Mais Vadaï, tu es en train de comprendre. Ça me fait plaisir que tu aies compris quelque chose d'intérieur maintenant. La vraie première question de ce cours. C'est-à-dire que celui qui n'a pas cette Torah en réalité, naturellement il devient... Et il s'éloigne complètement de l'essence même de ce que représentent les filles. Okay. Mais en réalité, il faut comprendre comment ça marche. C'est pour ça que c'est le Ramban, qui est le plus grand des kabbalistes, qui, lui, dit tout ce domaine-là, toute cette importance de rentrer en Eretz Israël et d'édifier un État. Okay. C'est pas Stam. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un homme qui se battait pourquoi ? Pour avoir une domination juive sur la terre d'Israël. C'est tout. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai il brûle les gens qui labouraient la terre quand il sort de la caverne ? Tu connais l'histoire ? Pourquoi il le regarde et il le brûle ? Parce qu'il est en train de labourer la terre parce que c'est les Romains qui sont souverains sur cette terre. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit tu n'as pas honte, tu es en train de donner de la force aux Romains, on n'est pas encore souverain. Donc arrête de travailler la terre même si c'est en Eretz Israël. Autrement dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, tu peux être en Eretz Israël, si tu n'as pas un gouvernement israélien, c'est comme si tu étais en dehors. Vous avez compris? C'est simple. Et David Ameler, quand il est sorti de Jérusalem pour aller dans un territoire où il y avait un autre roi, pas juif, il s'est considéré lui-même comme s'il avait fait Avodah Zara. Et il le marque dans Teilim.
C'était pour échapper à la mort.
Peu importe, mais il dit, je suis allé faire de Avodah Zara. Parce que je suis sorti de ce territoire pour aller dans un territoire israélien, mais sous domination étrangère. Ça te parle? Ça veut dire que... Non, mais je veux t'expliquer. Tout ce qui est en Eretz Israël, ce qui n'est pas sous la domination donc, de ce peuple, est à l'extérieur. Et cette Torah de la Kabbalah, elle vient enseigner ce but-là, c'est-à-dire d'arriver à transformer en fait la religion en quelque chose de beaucoup plus réel, de vivant. C'est-à-dire, on s'est habitué pendant 2000 ans à devenir des religieux. Pourquoi on s'est habitué à devenir des religieux pendant 2000 ans? Parce qu'on était en exil et il n'y avait pas autre choix. On ne pouvait pas faire autrement. Donc on s'est déguisé en religieux. Le problème aujourd'hui, c'est d'oublier ça. Quel?
Je peux dire une bêtise, mais moi, c'est ce qu'on a dit. On a dit que les grands rabbins ashkénazes avaient interdit de suivre la Kabbalah.
Non, c'est une bêtise.
Non, c'est ce qu'on m'a dit, il y a plusieurs personnes.
Plusieurs personnes, moi je te donne des références. Akdama du Zohar Hakadosh, 3e, 4e page, où on te donne la date exacte à partir de quand, non seulement il est autorisé, mais il est obligé d'étudier. C'est-à-dire depuis 450 ans, déjà, de notre histoire. Gdolim ou Ktanim, aux grands et aux petits. Je n'ai pas ici les références, mais elles sont dans l'ouverture même du Zohar. Alors les gens qui disent en l'air, ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, je te l'ai dit, et je le répète, il y a beaucoup de Yetzerara pour empêcher les gens de rentrer dans cette étude. Beaucoup de Yetzerara. De la même manière que beaucoup de rabbanim vont te dire, n'ouvre jamais un livre du Rav Kook. Oui ou non? C'est pareil.
C'est aussi beaucoup de Shabbat.
Okay. Pseder, là-bas c'est déjà du messianisme, c'est autre chose. Ça n'a pas aucun rapport avec la Kabbalah.
Okay. Ils ont un grand Yetzerara pour la Kabbalah, mais ils ont pas un grand Yetzerara pour ouvrir du Talmud ou...
Nachon, tout à fait. Parce que c'est très difficile à concevoir, tu as raison, alors que les mêmes qui ont écrit le Talmud, ce sont ceux qui ont écrit la Kabbalah. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un Tana, non? Donc Amora. Donc comment il fait pour écrire aussi le Zohar? C'est les mêmes. Rabbi Yossé, Rabbi Abba. Alors c'est quoi? C'est d'autres? Rabbi Akiva, c'est le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas écrit la Gemara? Il n'est pas dans les Mishnayot? Rabbi Meir, Stam Mishnah, Rabbi Meir Baalanes, c'est pas un kabbaliste? Alors arrêtez de raconter n'importe quoi. Faites attention. Regardez ce que dit le Rav. Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire, ta Torah va devenir un tzimtzum. C'est-à-dire un rétrécissement. Tu vas devenir étriqué dans ta Torah. Mekutsaf, rempli de colère et de nervosité. Chez Kol Tikkun Olam, וכל כוח חיים מתגלה, הכל הוא נראה לה כאבה לבלוע אותה. כי commence à avoir peur de n'importe quoi, comme si on venait l'avaler. On vient avaler cette personne. Vous regardez un petit peu les réactions, comme si on vient vous avaler, comme s'il y a une peur, parce qu'on nous a tellement, tellement, tellement rempli la tête, que ça nous fait peur. Le horid oz mibitra, et donc en réalité, tu perds complètement ta confiance dans la Torah. Regardez le Rav Kook, je ne suis pas en train d'inventer, ce n'est pas moi, Yoel, qui suis en train d'écrire, je vous traduis un texte. C'est-à-dire du Rav Kook. Okay. Ne me dis pas des choses qu'on te dit, je veux des références, pas des choses qu'on m'a dit. Tu sais combien de choses on m'a dit? C'est ce matin, on m'a dit par exemple que la lune était plus éclairée ces deux derniers jours. On m'a dit aussi que... Tu veux que je te raconte tout ce qu'on m'a dit? Que si tu mets des plumes dans un coussin, c'est bien parce que ta tête... On perd du temps, Ken. On perd du temps. Donne-moi des références, on perd du temps. Si tu ne viens pas avec une référence, ça ne sert à rien. Moi, je viens avec des références. Non, je te donne moi des références. Moi, j'apporte des références. Toujours, je dis à ceux qui veulent contredire ce que je dis, apportez-moi des références. À d'autres personnes? C'est... Non, non. La Kabbalah est donnée à Am Israël, et Am Israël doit habiller pour donner la lumière aux nations du monde comment vivre. Ben, toute la chrétienté, que tu le saches, dans les niveaux les plus élevés de la chrétienté, en secret, ils étudient des textes de la Kabbalah. D'accord? C'est pour ça qu'ils sont sortis aussi du judaïsme, et ils utilisent quand même la force du judaïsme. Mais c'est pas à cause de ça. Okay? C'est parce que tout simplement, okay, c'est accessible, tout est accessible, tu peux ouvrir Internet. Mais je ne vais pas enseigner, voilà ta question, je ne vais pas enseigner la Kabbalah, Goy. Je vais habiller ce que j'ai à dire pour qu'ils comprennent comment le monde doit arriver à vivre selon une éthique divine. Ok, on a terminé pour aujourd'hui.